Seigneur Jésus-Christ, merci de nous réunir aujourd'hui en ton nom. Merci de bénir toutes les personnes présentes ici ce matin. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ta parole, à la vivre, à la laisser nous transformer, afin que nous soyons toujours plus à ton image, notre Dieu, afin que nous puissions t'imiter, Seigneur Jésus, tout comme le texte d'aujourd'hui, de Matthieu, chapitre 10, nous y invite. Merci Seigneur. Amen. Bonjour. Salutations à travers un petit fichier MP3 à toute notre congrégation qui est ici présente à l'île de la Réunion. Je vous parle depuis l'état de Indianapolis aux États-Unis, où avec mon épouse nous sommes heureux de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu dans différentes églises. Aujourd'hui, le sujet de la prédication est le chapitre 10 de Matthieu, les versets 1 à 25, qui vont nous aider à voir combien Jésus nous invite non pas seulement à apprendre de lui, mais à l'imiter. Imiter Jésus, c'est le cœur de la vie chrétienne. Il est venu, lui qui était Dieu, pour devenir homme, et en étant homme, nous montrer le chemin de toute l'humanité, un chemin pour vivre uni à Dieu, afin que nous soyons délivrés du péché, afin que nous puissions aimer Dieu et notre prochain, afin que nous puissions être des témoins de lumière dans ce monde où il y a tant de ténèbres, de douleurs et de péchés. Le texte commence par le choix des 12 apôtres. J'aimerais vous lire le texte, les versets 1 à 4. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananaïte, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. À travers ces quatre versets, nous voyons plusieurs choses. La première, c'est que Jésus veut que ses disciples soient en mesure de faire ce que lui a fait. Il leur donne pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir maladies et infirmités. Cette autorité, Jésus le donne à ses disciples parce que lui-même la possède et nous invite par la foi à recevoir cette autorité. Quand Jésus était sur terre, il n'a pas guéri toutes les maladies, mais il a manifesté son amour et guéri plusieurs et chassé les démons. À la fin de l'évangile de Matthieu, l'accent ne sera pas sur la question de chasser les démons, mais sur la question de faire des disciples, comme on le voit au chapitre 28, les versets 16 à 20, qui est le cœur du ministère de Jésus, de faire des disciples. Maintenant, cette autorité spirituelle est aussi importante. Dans les versets 2 à 4, nous voyons comment Matthieu présente les disciples par groupe de deux. Simon et André. Simon, qui est manifestement présenté comme le premier, a eu son nom changé par Jésus pour qu'il devienne Pierre. Pierre, en grec Petros, c'est cette pierre solide. Simon, c'était cet homme qui était passionné pour Jésus, mais qui aussi était capable de changer d'avis, d'être désarçonné, et par exemple, il sera incapable de suivre Jésus au moment où Jésus est emprisonné et va le renier 3 fois. Tout comme Pierre, souvent dans notre chemin de foi, nous pouvons être tentés de renier Jésus ou de nous détourner de lui. Et c'est seulement par la force de l'Esprit, par une affirmation de Dieu, que nous pouvons devenir comme Pierre est devenu après la Pentecôte, un disciple fidèle en tout temps. Ce roc, cette pierre, cette fidélité vivante que Dieu veut que nous soyons à l'image de Jésus, car Dieu veut que nous imitions la fidélité de Jésus, sa foi constante, son exemple parfait. Les disciples sont présentés deux par deux, Pierre et André. André, c'est celui qui reste toujours dans l'ombre de son frère Pierre, tout comme certains d'entre nous auront comme tâche d'imiter Jésus, mais dans un rôle plus humble, plus discret. Néanmoins, cela restera un rôle à l'image de Jésus. Nous devons être fidèles à Dieu, que nous soyons dans la lumière ou dans l'ombre. Et nous voyons ensuite les groupes de disciples, Thomas et Matthieu par exemple, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, ou bien Philippe et Barthélemy. Dans ce groupe de disciples, nous voyons combien Jésus est à même de regrouper des personnes complètement opposées, comme Matthieu, le publicain. Publicain, ça veut dire celui qui collectait les taxes pour l'Empire romain. C'était considéré comme un traître par les Juifs de l'époque. Et on a ensuite, au verset 4, Simon le Cananaïte, ou Simon le Zélote. Lui, c'était quelqu'un qui était un révolutionnaire, qui voulait se révolter contre l'Empire romain et tuer tous les Romains. Jésus a été à même d'amener Matthieu et Simon le Cananaïte ensemble pour être ses disciples. Ils ont dû tous les deux abandonner leur vie passée. Matthieu, l'attrait de l'argent et le désir d'être riche. Simon le Cananaïte, le désir d'écraser ceux qui étaient puissants en son temps et de faire une révolution. La révolution que Jésus veut que nous fassions n'est pas une révolution violente, mais une révolution spirituelle, une révolution dans les cœurs, une révolution de l'amour du prochain, une révolution de vérité, de douceur, de sainteté. Après avoir choisi les 12, Jésus les envoie. C'est le sujet des versets 5 à 15, alors que Jésus va envoyer ses disciples en mission. Je vous lis les versets 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ces deux versets, uniques à l'évangile de Matthieu, sont très surprenants. On voit comment Jésus demande à ses disciples, dans la situation présente, de ne pas se tourner vers les païens. Les païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Et ne pas aller vers les Samaritains. Concrètement, alors que Jésus est en train de faire son ministère dans la région de la Galilée, il ne veut pas que ses disciples aillent au-delà de cette région pour l'instant. Il veut qu'ils annoncent l'évangile seulement dans cette région. Bien sûr, cette limitation va être enlevée plus tard, comme nous le voyons. Le texte pour la mission de toute l'Église que les siècles ont reconnu, c'est le texte de Matthieu 28, les versets 16 à 20, qui est le grand commandement d'aller faire des disciples de toutes les nations. Mais dans le cas présent, Jésus dit à ses disciples de se limiter au peuple juif, parce que pendant toute la vie de Jésus, il s'est limité à ce contexte, car Jésus étant le Messie d'Israël, sa tâche est de délivrer son peuple du péché, comme nous l'avons lu au chapitre 1 de Matthieu, au verset 21. Le but de Jésus est de délivrer son peuple du péché. Il commence par toucher ceux qui sont proches, et ensuite ira vers ceux qui sont loin. Dans notre ministère, dans notre foi, dans notre témoignage chrétien, nous devons faire de même, témoigner l'amour de Dieu à ceux qui nous sont proches et ensuite à ceux qui sont loin, mais ne pas oublier ceux qui sont proches, car c'est le premier appel de Dieu pour tout disciple de Jésus qui veut imiter Jésus. Au verset 7 et 8, nous pouvons lire « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Prêcher que le royaume de Dieu est proche, c'est annoncer que la royauté de Dieu, l'autorité de Dieu dans ce monde, est arrivée. Et pour qu'elle arrive, elle doit arriver à travers des personnes précises. Elle est arrivée tout d'abord par Jean le Baptiste et par Jésus. Jésus qui était pleinement soumis à son Père Céleste. Parce qu'il était soumis, il montrait que Dieu était son roi, que Dieu était son maître parfait et par conséquent que le royaume de Dieu avait commencé à venir dans ce monde. Quand nous imitons Jésus et que nous nous soumettons pleinement à Dieu dans tous les domaines de notre vie, alors nous pouvons dire « le royaume de Dieu est proche », parce que nous-mêmes, étant pleinement soumis à Dieu comme notre roi, dans nos pensées, nos actions, nos paroles, nous faisons partie du royaume de Dieu. Si nous désobéissons à Dieu ou si nous ne le laissons agir que dans certaines parties de nos vies, alors, malheureusement, nous ne pouvons pas dire que le royaume de Dieu est proche, car ce royaume est, en quelque sorte, absent lorsque nous ne nous soumettons pas pleinement à Dieu. Jésus invite aussi à guérir, à purifier, à chasser les démons, au verset 8, en mentionnant un point important. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est une invitation à la générosité. Le ministère chrétien est un ministère de générosité. Cette générosité ne serait pas possible sans qu'elle soit basée sur la générosité de Dieu, qui lui a donné sans compter. Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, lui qui n'a jamais péché, qui s'est offert en sacrifice pour nous, pécheurs. À peine est-ce que quelqu'un accepterait de se sacrifier pour une personne de juste. Combien plus le sacrifice de Jésus est beau, lui qui s'est offert pour des gens qui étaient injustes. Des gens comme nous, qui avons été infidèles, qui avons tout un bazar dans nos vies, mais que Dieu a voulu purifier et qui, par sa grâce, peuvent être purifiés. Nous pouvons vivre une vie de sainteté. Nous pouvons vivre une vie de pureté, à l'image de Christ. Ensuite, au verset 9 et 10, tout comme nous avons été appelés à donner gratuitement, Jésus invite à faire confiance que lui va pourvoir aux besoins de ses serviteurs. Versets 9 et 10, je vous lis. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus est en train de dire que pour ceux qui vont partir en mission, en ce moment-là, il veut qu'ils apprennent que Dieu va pourvoir pour leurs besoins. Est-ce que cela veut dire que pour nous, aujourd'hui, nous devons faire de même, ne plus avoir de maison? Eh bien non, c'était un commandement de Jésus pour un temps particulier. Tout comme dans nos vies, Jésus peut-être à un moment donné nous demandera de faire de même. Mais si vous voulez savoir pourquoi on peut dire que ce commandement n'est pas un commandement absolu, vous pouvez lire, par exemple, dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 35 et 36. C'est juste avant le départ de Jésus, juste avant sa crucifixion. Il dit à ses disciples à ce moment-là, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. » Nous voyons que, dans ce texte, ce commandement à ne rien prendre en voyage était spécifique à la situation des disciples dans le cas que nous avons maintenant. À travers cet encouragement à ne rien prendre, Jésus veut que ses disciples apprennent à dépendre de lui en toute chose. À l'image de Jésus qui n'a pas retenu sa divinité, qui ne s'est pas nourri lui-même quand il a jeûné pour 40 jours, il ne s'est pas fabriqué de la nourriture lui-même comme le démon aurait voulu qu'il le fasse. Il s'est attendu à Dieu qui lui a donné tout ce dont il avait besoin. De même, ses disciples ici ont besoin d'apprendre que Dieu va pourvoir pour tous leurs besoins. Nous devons apprendre cela aussi et Jésus veut nous guider dans cet apprentissage au fil de notre vie. Avec mon épouse Sandra, Nous avons eu à faire des pas de foi. On appelle cela des pas de foi, où on va être appelé à lâcher ce que nous connaissons. Par exemple, quand je suis parti dans mon cas étudier aux États-Unis, nous ne savions pas comment nous allions nous en sortir. Mais Dieu a pourvu. Après une année d'études, quand j'étais aux États-Unis, nous n'avions plus assez d'argent pour pouvoir continuer. Et j'ai dû dire aux personnes du séminaire, si nous n'avons pas de soutien financier autre, nous allons être obligés de rentrer en Europe. Et c'est seulement quand nous avons reconnu notre dépendance et que nous n'avions pas assez que Dieu est venu et a rempli et nous a donné ce dont nous avions besoin. Parfois, nous aimerions que Dieu, en avance, nous donne tout ce dont nous aurons besoin et que nous ayons à ne plus nous soucier de rien. Mais une servante de Dieu, qui s'appelait Corrie ten Boom, avait réfléchi par rapport à ça en se disant « Comment est-ce que je vais supporter les souffrances que je vivrai peut-être plus tard ?» Et son papa, qui lui parle, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Corrie ten Boom elle-même est une femme qui ira en camp de concentration. Et son papa, qui veut l'aider à se préparer, lui dit, à sa petite fille qui était encore une enfant, il lui dit « Si tu dois aller en voyage par le train, est-ce que je te donne le billet de train beaucoup de jours en avance ou juste avant de prendre le train ?» Et sa fille lui répondit « Non, tu vas me le donner, le billet, juste avant de prendre le train. » Et son papa, avec douceur, lui dit « Avec Dieu, c'est pareil. Il te fournira tout ce dont tu as besoin en son temps. Tu as à te confier en lui. » Et le verset 10 nous dit que l'ouvrier mérite sa nourriture, ce qui veut dire que quand nous servons Dieu, Dieu prendra soin de nous. Une des façons qu'il aura de prendre soin de nous sera à travers l'Église, qui est appelée à soutenir les serviteurs de Dieu, appelés à plein temps par exemple. C'est un sujet qui est important. Important aussi dans une culture comme la culture française, où l'État, dans une certaine mesure, essaye de répondre à tous les besoins du peuple français, que ce soit au niveau psychologique, au niveau médical, au niveau des retraites. Mais j'ai à être honnête avec vous, l'État ne pourra jamais complètement remplir ce rôle. L'Église de Jésus-Christ est là pour manifester cet amour, ce soin que l'État ne peut remplir, cette tâche qu'il ne peut remplir que très partiellement et que très imparfaitement. Même si je suis très reconnaissant pour la sécurité sociale. Mon papa était médecin de la sécurité sociale pendant plus de 10 ans, et beaucoup de choses telles que l'éducation gratuite en France qui sont une bénédiction. Maintenant, l'Église a un rôle fondamental à jouer, l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. Et la seule règle que vous trouverez dans toute la Bible, c'est la règle qui s'appelle la dîme. Donner 10% de ce que nous avons pour soutenir les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas d'autre règle dans la Bible. C'est la seule qui soit si claire et que nous retrouvons aussi dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, nous voyons dans les versets 9 et 10 comment les serviteurs de Dieu, ceux qui partent et qui se confient en Dieu, Dieu prendra soin d'eux en tout temps. Et je peux vous rendre compte et je peux témoigner avec mon épouse Sandra de combien Dieu est fidèle. Nous avons depuis plus de 10 ans lâché les amarres, j'ai lâché mon travail d'ingénieur en robotique. C'est vrai, je suis devenu pauvre pendant quelques années. Au lieu d'avoir une jolie maison et une jolie voiture, pendant quelques années, j'ai vécu dans un appartement avec 5 colocataires, sans voiture, sans ordinateur. Mais je peux vous dire une chose, Dieu était fidèle. J'ai eu assez à manger, j'ai eu un toit pour me couvrir et je n'ai jamais regretté de lâcher les amarres, de suivre Dieu. Le point clé, c'est d'imiter Jésus et de le suivre. Non pas faire ce qu'on aimerait, ne pas imiter les autres, mais imiter Jésus. Certains d'entre vous pourraient être tentés de dire « Si Stéphane a lâché son métier, moi aussi je vais lâcher mon métier et puis Dieu va prendre soin de moi. » Dieu vous demande de le suivre et de le suivre à travers sa direction pour vos vies. Si vous y êtes fidèle, vous ne regretterez jamais d'avoir été fidèle. Car si Dieu est le créateur de l'univers, combien plus est-il prêt à prendre soin de chacun de nos besoins dans toute situation? Ensuite, au verset 11 à 15, alors que Jésus invite les disciples à pouvoir partir en mission, il leur donne quelques instructions que j'aimerais vous donner par rapport à où demeurer. Versets 11 à 15. Dans quelque ville ou village où vous entriez, informez-vous s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Les disciples sont invités à annoncer l'évangile et quand ils vont se déplacer, ils iront taper aux portes des personnes, ils iront deux par deux et ceux qui les accueilleront, ils demeureront avec eux. Ceux qui ne les accueilleront pas, ils secoueront la poussière de leurs pieds et iront ailleurs. C'est un encouragement à annoncer l'évangile en tout temps et en tout lieu. En ayant la conscience que quand les gens ne veulent pas écouter, notre but n'est pas de recommencer sans arrêt, mais de trouver d'autres personnes, de nous tourner vers d'autres. Et il y a un grand nombre de personnes qui ont encore besoin d'entendre l'évangile aujourd'hui, que ce soit dans les rues de Saint-Denis, dans toute la Réunion ou dans tous les endroits dans ce monde. Sommes-nous prêts à annoncer l'évangile et aussi à écouter le conseil tout simple de Jésus de nous dire « Quand quelqu'un n'écoute pas ce que vous dites, qu'il n'est pas intéressé par l'évangile, la bonne nouvelle, allez vers quelqu'un d'autre. » C'est d'une grande simplicité, mais souvent on va vouloir s'acharner. Jésus a dit à ses disciples de se limiter au peuple d'Israël pour commencer, mais ensuite ils vont élargir le cercle. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile aux personnes qui nous sont proches, et en même temps, plus le temps va avancer, plus nous allons évoluer dans la foi, plus nous serons appelés à annoncer l'évangile à toute personne, même les personnes qui sont loin de nous, même des personnes d'autres cultures. Et c'est cette flexibilité à l'appel de Dieu qui nous permettra de porter son fruit, d'être à l'image de Jésus-Christ, d'imiter Christ. Imiter Jésus, c'est le cœur de la vie chrétienne. Et l'imiter par la puissance de l'Esprit-Saint travaillant en nous, l'imiter par l'étude de sa parole, par une vie de prière, par la fidélité à son amour, à sa sainteté, la fidélité à sa parole. Imiter Jésus, c'est le cœur de la vie chrétienne. C'est le but, et c'est le seul but que Jésus avait dans ce monde, de nous donner un exemple parfait, que nous puissions imiter par l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, Jésus, au verset 16 à 25, rappelle à ses disciples quelques réalités de la mission. La première réalité, c'est que le monde autour de nous n'est pas un monde gentil, n'est pas un monde doux. Verset 16, je vous lis. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Des brebis au milieu des loups. Il y a des personnes dans ce monde qui veulent détruire, qui veulent écraser, qui veulent asservir les autres pour leur but personnel, pour leur propre gloire, pour leur propre puissance financière, politique, économique, pour leur influence sur les gens autour d'eux. Toutes ces choses existent. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Et nous pouvons être détruits. Mais Jésus nous invite à être prudents comme les serpents. Un serpent n'a ni pied ni main, et par conséquent, il n'a pas de facilité à se déplacer. Mais c'est un animal qui est connu pour sa ruse, qui est capable de se cacher, de se dissimuler facilement. Et Dieu veut que nous ayons la ruse des serpents sans en avoir la perversion, sans avoir l'opposition à Dieu que le serpent de la Genèse avait. Et c'est pour ça que, juste après l'invitation à être prudent comme des serpents, Jésus nous dit que nous avons à être simples ou purs comme les colombes. Les colombes sont blanches, ce qui nous rappelle la pureté. L'Esprit Saint aussi est venu sur Jésus comme une colombe. On pourrait dire que cette pureté, c'est par conséquent la pureté de l'Esprit Saint aussi. Nous sommes appelés à être rusés pour l'Évangile, à réfléchir comment annoncer l'Évangile le plus efficacement possible. Dieu ne nous a pas créés pour être stupides. Il nous a créés pour réfléchir, pour le servir avec notre cœur et notre intelligence, les deux unis à son service. Au verset 17 et 18, il nous est rappelé que les premiers chrétiens ont été battus et ont été humiliés. Je vous lis les versets 17 et 18. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Aujourd'hui, il y a peu de chances que nous ayons à être amenés devant des tribunaux pour notre foi. Mais ça n'est pas impossible, et nous avons à être prêts pour cette éventualité si cela devait nous arriver. Mais même si cela nous arrivait, nous sommes invités à ne pas nous inquiéter, comme les versets 19 à 20 nous le rappellent. Je vous les lis. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. De ce que vous aurez à dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Dans les difficultés, dans les épreuves, nous sommes invités à faire confiance à Dieu qui nous aidera à trouver comment réagir. Cette invitation n'est pas une invitation à la paresse. Vous n'êtes pas invité à arrêter à lire la Bible, à arrêter à aller à l'église en disant « L'Esprit Saint me donnera la force quand il faudra ». L'Esprit Saint, si vous le suivez, vous invitera à étudier la parole de Dieu, vous invitera à être fidèle à la venue à l'église, à la vie fraternelle avec vos frères et sœurs en Christ, parce que c'est comme cela que nous grandissons. Mais le jour de l'épreuve, l'Esprit Saint vous sera fidèle aussi et vous aidera à savoir comment répondre, comment être fidèle à Christ en toute situation, comment imiter Jésus, lui qui, même lorsqu'il était emprisonné et qu'on l'amenait vers la croix, a été fidèle à Dieu et a donné les paroles de Dieu, témoignant de l'amour du Père, de la vérité, même dans les situations les plus difficiles telles que la mort sur la croix. Nous sommes invités à imiter Jésus, à prendre notre croix et à le suivre, afin que sa vérité et sa lumière brillent dans ce monde. Au verset 21 et 22, Jésus mentionne comment les familles pourront vouloir détruire certains. Je vous lis versets 21 et 22. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez donc haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Certains d'entre vous ont déjà expérimenté, comme moi, combien quand on devient chrétien, quand on suit Jésus, nos familles peuvent s'opposer à nous. Nos familles peuvent nous vouloir du mal des fois. Et il y en a certains même qui sont menacés de mort. Malheureusement, par exemple, les personnes de foi musulmane sont souvent menacées de mort si elles deviennent chrétiennes. Si elles accueillent Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, comme leur Seigneur, elles risquent leur vie souvent. Et nous avons à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans cette situation, qui vivent de manière concrète cette réalité que nous lisons au verset 21 et 22. Dans tout cela, Jésus nous invite à la persévérance, à la fidélité, en sachant qu'à la fin, nous serons sauvés. Ça veut dire que le salut, ce n'est pas de dire une bonne parole à un moment donné et ça y est, toc, voilà, on a fait notre petit boulot et on est sauvé. Ça ne veut pas dire que si on est baptisé, on va être sauvé. Ça veut dire que c'est la fidélité à Dieu qui est la clé du salut. La fidélité à Dieu, une autre façon de la dire, c'est la foi en Dieu. Ayez foi et on est sauvé par la foi, une foi fidèle. Est-ce que ça veut dire qu'on doute de notre salut? Non. Nous n'avons aucun doute du salut si nous sommes fidèles à Dieu en toutes choses aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas fidèles à Dieu aujourd'hui, à la fin de ce temps, je vous inviterai à mettre en ordre votre vie, afin que si, lorsque la fin de votre vie viendra, ou si Jésus revient avant ce temps-là, nous soyons sauvés, nous soyons de son côté et non pas opposés à lui. Dans la persécution, Jésus ne nous invite pas à la stupidité, il ne nous invite pas à la bêtise. Il nous dit au verset 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Pardon, j'ai lu le verset 24 déjà. Au verset 23, Jésus invite à fuir quand on est persécuté. Si vous êtes persécuté, soyez prêt à aller ailleurs. Soyez prêt à bouger. Et les versets 24 à 25 vont rappeler une réalité. Nous sommes invités à imiter Jésus. Imiter Jésus veut dire que nous devons être prêts à vivre ce que lui a vécu. Et ce que lui a vécu, ça a été parfois d'être accueilli avec joie, d'être béni, d'être loué, parfois d'être humilié, battu et rejeté. Tel que les versets 24 et 25 nous le disent. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Si notre Seigneur Jésus a été humilié, est-ce que vous pensez que vous pourrez être fidèle à Dieu sans être humilié ? J'aimerais vous dire honnêtement, si vous êtes fidèle à Jésus, il y aura des moments dans vos vies où vous serez humilié, tout comme j'ai été humilié parfois et je le serai. Et cela ne dépend pas de nos capacités, de notre intelligence, de ce que nous arriverons à faire, ça fait partie des réalités. Si nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ, certains se réjouiront de cela, d'autres seront tristes, ou agressifs, ou en colère contre nous. Mais dans toute chose, nous aurons à être fidèles à Dieu, nous aurons à vivre à l'image de Jésus-Christ, à imiter Jésus. Le problème de ce monde, c'est le péché, la ténèbre. La solution que Jésus a apportée, c'est de marcher en étant fidèle au Père Céleste, de marcher dans la lumière, de marcher par la foi. Cette vérité était valable au temps de Jésus, elle l'est en notre temps. Le problème de notre monde est toujours le péché et les destructions qu'il fait. La solution, c'est de marcher à l'image de Jésus-Christ, de le suivre et de l'imiter. Pour l'imiter, encore faut-il connaître ses enseignements, encore faut-il connaître ses paroles. C'est pour ça que l'étude de la parole de Dieu, de la Bible, est d'une importance capitale. C'est pour ça que l'enseignement, la proclamation de la parole de Dieu, est le cœur de chaque service dans notre petite église. Alors que ce sermon arrive à sa fin, j'aimerais vous demander, êtes-vous prêt à imiter Jésus ? Êtes-vous prêt à apporter cette lumière dans ce monde de ténèbres et à subir les humiliations que ce service, que ce ministère, que cette imitation de Jésus va impliquer ? Êtes-vous prêt à dire oui de tout votre cœur à Jésus ? J'aimerais prendre une minute de prière maintenant et vous donner l'occasion de répondre dans votre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ maintenant. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'imiter, parce que ce monde de ténèbres a besoin de ta lumière, et que la façon que tu as choisie, c'est de travailler à travers nous, aussi petits que nous soyons. Comme les 12 apôtres étaient petits, nous aussi nous sommes petits. Mais dans notre petitesse, si nous laissons ton Esprit Saint régner, alors ta lumière peut briller dans ce monde. Montre-nous maintenant dans la minute qui vient s'il y a un point que tu veux nous enseigner et que nous puissions te répondre maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton exemple et pour l'Esprit Saint qui en nous peut renouveler ton exemple, nous permettre de marcher à ton image, de pouvoir t'imiter dans ta foi, dans ton obéissance au Père Céleste, dans ta fidélité sans faille. Donne-nous de pouvoir vivre cette semaine à ton image, en imitateur de toi. Bénis chacune des personnes présentes ici, aujourd'hui, Seigneur. Bénis Anise, Dominique, Juliette, Alexandre, Pierre, Laurence. Bénis Colline particulièrement. Bénis, Seigneur, Rémi. Bénis Mémé Fillette. Bénis chacune des personnes ici présentes que je ne vois pas, mais que toi tu vois, Seigneur Jésus-Christ. Et fais briller ta lumière à travers nous. Nous avons besoin de toi. Glorifie ton nom dans notre petite église. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom brille à travers nous, afin que beaucoup viennent à te connaître, à t'aimer et à te servir, pour que eux-mêmes soient délivrés des ténèbres et découvrent la joie de vivre et de t'imiter, Seigneur Jésus-Christ, dans ton amour et ta sainteté. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen.